Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on parle du référendum ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car de référendum, il sera sûrement question ce soir dans l'émission télévisée à laquelle Emmanuel Macron va participer. Des annonces du président français sont attendues, alors reste à savoir sur quel sujet et sous quelle forme. Le référendum est-il une bouée de secours? C'est la question que nous posons ce soir. Pourquoi est-ce que les politiques l'agitent-ils si souvent et pourquoi le référendum est-il si rarement mis en œuvre? La dernière fois, en France, c'était il y a 20 ans. Que signifie bien le fait de consulter la population? Quels en sont les dangers? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, tous trois à mes côtés en studio, Guillaume Tussaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public au sein de l'école de droit de Sciences Po. Face à vous, Philippe Meurot-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCVG Conseil. Et Valérie Gasse, bonsoir Valérie.
Bonsoir Romain.
Chef du service politique de RFI. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Première question, Guillaume Tussaud. Je disais, quel sujet, quelle forme? Emmanuel Macron va sans doute trancher ce soir, on va en parler, mais... quelles sont les conditions d'organisation d'un référendum aujourd'hui? Qui décide? Et effectivement, est-ce que la personne qui décide a le champ totalement libre sur les sujets qui sont proposés?
Alors la question est complexe. Qui décide? C'est le président de la République sur proposition du Premier ministre. Et on a vu qu'il n'est peut-être pas indifférent dans les jours qui ont précédé cette intervention télévisée, qu'il ait semblé y avoir une forme de dissonance entre le chef du gouvernement et le chef de l'État. Et sur quel sujet l'article 11 de la Constitution énonce un certain nombre de thèmes qui peuvent faire l'objet du référendum. Et la question est de savoir si cette liste énumérée par l'article 11 est suffisamment vaste pour inclure tout ce que les Français semblent vouloir que le président de la République, s'il les consulte, veuille qu'il y inclue. De ce point de vue-là, le droit constitutionnel est assez flou. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne tranche pas la chose. Donc, il y a matière à réflexion.
Il y a matière à réflexion. En tout cas, c'est le président de la République qui donne son feu vert s'il y a une consultation, s'il y a un référendum.
Absolument.
À chaque fois.
C'est ça.
Ça doit être lui qui décide cela. Alors, par exemple, les sujets qui sont évoqués, il y a une réforme territoriale, la fin de vie, le temps des écrans, par exemple. Il y a des sujets aussi vastes qui peuvent être soumis à un référendum?
C'est toute la question. Si on s'en tient au texte de l'article 11 de la Constitution, ça peut concerner ce référendum, l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, les services publics qui y concourent, pour l'essentiel des sujets internes. La question est de savoir si les thèmes que vous avez mentionnés peuvent rentrer dans la catégorie des services publics, de la politique économique sociale de la nation. Sur la réforme territoriale, il avait été pensé en 2019 intégrer, spécifier dans la Constitution les pouvoirs publics nationaux et locaux, parce qu'il y avait un doute sur le point de savoir si l'organisation territoriale rentrait ou non dans le champ du référendum. En l'état, l'article 11 n'a pas été changé. Donc si on décide de consulter les Français sur la réforme territoriale, c'est que l'interprétation que donne le chef de l'État de l'article 11 le lui permet. Et en l'état, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'indique pas clairement si, oui ou non, le Conseil a le pouvoir éventuellement de remettre en cause ce choix du chef de l'État quant au champ d'extension du référendum.
Philippe Meurot-Chevrolet, à quoi il faut s'attendre ce soir? Ça fait 20 ans que les Français n'ont pas été consultés. La dernière fois, c'était en 2005, sur le texte concernant la Constitution européenne, le référendum européen, qui avait vu le non l'emporter, qui avait été terrible pour le président de l'époque, Jacques Chirac. Quand j'évoquais les sujets qui sont évoqués, temps d'écran des enfants, je l'ai dit, fin de vie, réforme territoriale, immigration également, alors, c'est des sujets très différents. À quoi a intérêt Emmanuel Macron?
Ce qu'il a intérêt à faire, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si on a la réponse. Il a fait une très très bonne séquence internationale. Il a été remarquable en s'affirmant presque comme un des leaders de l'Europe. Il a repris une forme de direction qui était quand même très difficile à reprendre. On a la puissance nucléaire pour nous. Le retrait de l'acteur américain nous laisse quand même beaucoup beaucoup d'espace. Est-ce qu'il a intérêt à revenir sur la scène domestique? Très franchement, non. Ouais. Son silence l'aide plutôt. Pourquoi il le fait? Parce qu'il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix? Parce que François Bayrou est un très bon équilibriste. Il a stabilisé la situation politique, mais on arrive un peu aux limites de l'exercice. Il a parlé d'un référendum de son propre chapeau, de sa propre initiative, ce qui évidemment n'est pas possible. Il a placé l'Élysée en porte-à-faux. Ouais. Il est handicapé par une grosse affaire qui est l'affaire Betaram, qu'il a excessivement mal gérée, donc il est quand même assez affaibli. Ouais. Et le président doit revenir un petit peu dans le jeu aussi pour préparer 2026, puisqu'il y a quand même des élections, et 2027 s'il veut avoir une succession autre que le RN. Le choix des intervenants qu'il a ce soir est assez stratégique. C'est toujours la même stratégie, hein. C'est les extrêmes face au centre, les extrêmes face à la raison. C'est donc Robert Ménard qui a été imposé visiblement par TF1 pour l'extrême droite. Et puis Sophie Binet qu'on imagine représenter la gauche. Ça va être Thibaut InShape qui est un influenceur pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et j'en voudrais pas aux auditeurs de RFI de pas le connaître, qui est un influenceur de musculation, enfin de fitness, et qui lui va draguer, comme ça se passe aux États-Unis et sur la même logique que Trump, les jeunes électeurs masculins, plutôt tentés par le vote RN, qui sont en pleine captation par le vote RN. Et puis on aura Salomé Sakié de l'autre côté, qui viendra, elle, qui est la passionnariat des jeunes de gauche, plutôt des femmes, qui va contrebalancer Thibaut InShape. Et au milieu, on a le président, qui va être la voix de la raison, de la sagesse et de l'honnête homme du 21e siècle, ce qui est la position préférée d'Emmanuel Macron.
Donc finalement, s'il annonce un référendum ce soir, Emmanuel Macron, ce sera pour tenter de sauver son Premier ministre ?
Alors,
c'est-à-dire que la question, c'est
est-ce qu'il va annoncer quelque chose ? Parce que la manière qu'a l'Élysée d'attirer l'attention, comme ils ne peuvent plus tellement vendre d'exclusivité avec des interventions télé, puisqu'on en est quand même à la 500e, c'est de promettre à chaque fois un truc. Donc, sortir à la pin un référendum du chapeau.
Maintenant, ça peut aussi être un pétard mouillé.
Ça peut être rien du tout qui se passe et il peut ne rien annoncer. Moi, c'est quand même l'hypothèse que je retiens de travail pour l'instant. Et s'il sort un lapin du chapeau avec un référendum, il prend un risque majeur qui est que les Français votent contre par principe. D'abord parce qu'ils sont massivement en colère. Toutes les enquêtes le montrent. Ensuite, il n'est pas très populaire, Emmanuel Macron. Et ça peut être l'occasion pour eux de dire, bon, ça suffit.
Ouais.
Je ne vois pas très bien comment avoir un débat serein sur un sujet. Désavouer le Parlement sur la fin de vie, parce que ce serait un désaveu du Parlement, ça me paraît quand même excessivement risqué. Pour avoir quel type de débat avec une extrême droite aussi forte et un LFI en face, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas très envie de le voir, ce débat. Et puis après, il y a la réforme territoriale. Bon, est-ce que ça va passionner les Français ? Je ne suis pas sûr. Le temps d'écran, alors, pourquoi pas ? Je pense que ça va beaucoup intéresser les gens. Mais tranché par référendum, non. Il y a une régulation européenne qui existe sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faudrait appliquer déjà les lois existantes.
Il y a l'intérêt peut-être pour Emmanuel Macron que ça ne se solde pas par le vote sanction. On en parlera peut-être, parce que c'est le danger aussi pour les politiques du référendum.
Pour éviter le vote sanction, il faudrait trouver
sur une question sociétale
un sujet consensuel sur lequel on serait. C'est exactement ce que réussit à faire Anne Hidalgo.
Mais le temps d'écran des écrans, c'est assez apaisé.
Anne Hidalgo, elle a évité le vote sanction en demandant aux Parisiens, qui sont plutôt des Parisiens âgés, ceux qui votent en tout cas, de dire non aux trottinettes électriques. Je peux vous dire que ça a voté. Personne n'est allé parmi les 18-24 ans défendre les trottinettes électriques en votant. Ça n'existe pas. Donc elle n'a pas pris de risque, elle a obtenu un score de 90%. Il faudrait trouver l'équivalent des trottinettes électriques. Trouvez-moi ça dans le débat national actuellement, sachant que l'extrême droite conflictualise à peu près n'importe quel sujet. C'est pas évident. Hein.
Alors, vous avez évoqué aussi un point qu'on va développer sur le est-ce que consulter la population, c'est contourner le Parlement. Mais Valérie Gasse, pour revenir à l'émission de ce soir, si Emmanuel Macron, c'est la thèse de Philippe Moreau-Chauvrelet, n'annoncerait pas des référendums ce soir, est-ce que c'est parce que pour le président de la République, c'est d'abord dangereux de tenir un référendum aujourd'hui?
Je ne sais pas
aussi
affirmatif, je ne sais pas ce que va faire le président de la République ce soir. Je crois qu'il y a très peu de gens qui le savent. Est-ce qu'il a véritablement d'ailleurs tranché à l'instant T exactement ce qu'il va pouvoir dire? On sait qu'Emmanuel Macron peut être adepte des retournements de dernière minute. Donc on va voir, et il faut souvent arrêter de faire des pronostics. Ce qui est sûr, c'est que cette idée de référendum, elle a été lancée par l'Élysée dans le débat. Certes, François Bayrou a mis son petit grain de sel en proposant un référendum sur un plan budgétaire pour réduire les déficits et pour court-circuiter les potentielles annonces d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les sujets qui intéressent les Français pour un éventuel référendum, il n'y a pas les écrans. Il y a l'économie, c'est-à-dire les dépenses, la dette, il y a l'immigration, et puis il y avait la retraite. Donc on voit que finalement, cette idée de référendum, les Français aiment bien y réfléchir. Le président de la République Faire une émission qui est annoncée pour faire 2h30 avec autant d'intervenants, d'interpellations, de débats qui sont annoncés, il va falloir qu'il en sorte quelque chose.
Oui.
Il y aura forcément une très grosse déception s'il sort rien de proche du référendum qui a trait à cette question. Et Emmanuel Macron, il faut le rappeler, a dit lors de ses vœux le 1er janvier qu'il voulait consulter les Français d'une manière ou d'une autre dans l'année 2025. La question, c'est de quelle manière, comment va-t-il leur donner la parole? En effet, sur un référendum, il y a un risque politique important.
Ouais.
Il essaye, et c'est ce qui transparaît, de trouver des sujets du quotidien, des sujets sociétaux, des sujets un peu désimpliqués politiquement pour éviter cet écueil majeur d'un président qui organise un référendum, c'est-à-dire un vote pour ou contre lui et pas sur le sujet en question. Donc il essaye de revenir avec cette émission et ce qu'il va peut-être annoncer à cette occasion-là dans le débat politique national dont il a été exclu, la faute à une dissolution ratée qu'il a lui-même voulu. Et donc depuis des mois, il est là un peu en attente. Je crois pas qu'il doit revenir. Je crois qu'il a très envie, Emmanuel Macron, de revenir. Ça a été vraiment très douloureux pour lui, cette espèce d'exclusion du débat politique national pendant des mois. Certes, il a été, on va le dire, plutôt actif et que ça lui a plutôt servi, ça a plutôt été apprécié, son rôle à l'international. L'actualité internationale, la guerre en Ukraine, les négociations pour essayer de sortir de cette guerre, l'arrivée de Donald Trump qui bouleverse tous les réflexes géopolitiques, lui ont donné l'opportunité de jouer une carte qui a plutôt bien marché. Ces derniers jours, en effet, il a été à Kiev avec les alliés européens, il a marqué les esprits. Donc on a un Emmanuel Macron qui a un peu redoré son blason. Qui n'est plus le, entre guillemets, vous m'excuserez, le loser de la dissolution.
Donc il va pas prendre le risque.
De plein fouet. Donc il veut revenir.
Il va pas prendre
Emmanuel
le risque du coup d'une consultation
trop dangereuse.
Parce
que de toute manière, il a toujours une carte à jouer, toujours une option, laquelle il va nous sortir ce soir. Est-ce qu'il va prendre, comme il adore le dire, son risque et organiser un référendum qui peut lui revenir dans la figure? Il y a une part d'incertitude sur ce qui va se passer là.
Ouais. Guillaume Tussaud, on a compris que finalement, pour que le référendum soit pas dangereux, soit sans risque politique pour le président de la République, il faut qu'il soit sur un sujet de société apaisé. Je vais reprendre les trottinettes à Paris, l'exemple que donnait Philippe Moreau-Chevrolet. Mais est-ce que dans l'histoire, il y a eu ce type de consultation qui a été menée en France?
Celle sur le quinquennat, le seul exemple de révision constitutionnelle qui a été adoptée.
C'est un sujet lourd.
C'est un sujet lourd, mais comme c'était très consensuel, la participation a été assez faible et finalement...
Il n'y a pas eu de vote sanction.
L'adoption. Non, puisque tout le monde était d'accord. Donc c'était plutôt un oui dans l'indifférence.
Ouais. Mais c'est parce que l'occasion s'y présentait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a peut-être pas cette carte en main.
Non, mais justement, une des manières de parer au risque d'un référendum sanction, c'est une hypothèse qui circule aussi aujourd'hui, c'est celle d'une pluralité de questions. Et de cette manière, on peut dissoudre le risque si les questions sont formulées de manière suffisamment fine, suffisamment tactique. Faire en sorte qu'un même bloc ne puisse pas dire non à tout, oui à tout, que ce soit un bloc de droite, un bloc de gauche. Et de cette manière, on disperse la riposte possible des camps, qui sont essentiellement un camp de gauche, un camp de droite, le camp centriste étant le camp macroniste. Et de cette manière, le président peut, d'une certaine manière, dépersonnaliser l'enjeu de la question référendaire.
La Constitution l'autorise ?
Il n'y a rien qui s'y oppose. Et dans notre histoire constitutionnelle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu cet exemple d'une consultation pour passer de la 3e à la 4e République avec deux questions. Et dans d'autres démocraties, c'est parfaitement courant.
C'est une option qui a été, en effet, largement diffusée par l'Élysée. En effet,
le ministre des Relations avec le Parlement l'avait évoqué, Patrick Miola. L'idée, c'est de présenter aux Français un plan général avec 10 ou 15 mesures.
Oui, c'est un référendum à chevalier. Ce serait très nouveau. Ce serait un peu à l'américaine, c'est-à-dire il est coutumier aux États-Unis de voter pour plusieurs élections à la fois. Après, est-ce que oui, ce serait sur la forme au moins, ça aurait un côté nouveau pour les Français, c'est-à-dire qu'ils se diraient tiens,
c'est pas oui ou non.
Voilà, c'est pas oui ou non. Je peux avoir plusieurs options effectivement. Après, la question serait quel type de questions on pose, enfin quel type de débat on ouvre, et s'ils font effectivement un référendum QCM, on pourrait appeler ça comme ça.
Ouais.
Ça pourrait être intéressant. Après, on ouvre aussi 4 débats à la fois, donc. C'est 4 terrains minés en même temps à gérer, donc c'est aussi la complexité. Puis il y a quand même la possibilité que les Français répondent non.
Voilà. Et ça peut ne pas être le référendum de Macron, entre guillemets.
Ce sera toujours
vu comme ça par les Français.
Dans la 5e République, ce sera toujours le référendum de Macron, enfin quoi qu'il fasse, surtout si c'est lui qui l'annonce. Après, peut-être qu'il va vouloir le faire parce qu'il a une chose quand même. Il a essayé de renouveler les méthodes démocratiques, les pratiques démocratiques. Il a fait des consultations citoyennes. Alors tout ça a été beaucoup de vent, mais ça a quand même apporté quelque chose de nouveau et à mettre à son crédit dans la pratique démocratique. Ouais. Il y a eu le quinquennat avec Chirac qui était peut-être une expérience malheureuse, mais il y a eu ça aussi. Il y a eu les conventions citoyennes. Bon, c'est de nouvelles façons de faire.
Conventions citoyennes, climat, fin de vie. Mais alors ça a été aussi pas mal... critiquer la convention citoyenne
du climat. Non, critiquer, c'est qu'il n'y a pas forcément de choses derrière qui arrivent.
Voilà. C'est ça qui est critique.
Pas toujours suivi des faits, c'est ça que j'entends par critiquer. 10% des mesures de la convention climat.
Les Français disent, les politiques, on n'y croit plus, ils font des promesses qui ne tiennent pas.
Ouais.
Qu'on leur dit très bien, on va procéder différemment, voilà, un nouveau processus démocratique, et que la première chose qu'on retient du nouveau processus, si ils disent des choses, ils ne les font pas, c'est un peu embêtant. Donc oui, il faudrait, au niveau local, les référendums sont assez peu utilisés, d'ailleurs, pour cette raison-là. Il y en a eu 80 qui ont dû être organisés.
Valérie Gasse, finalement, est-ce que pour Emmanuel Macron, là on est sur l'image politique, il y a l'idée de « je donne la parole aux Français » pour contrebalancer le sentiment d'une verticalité du pouvoir vécu par les Français?
Oui, il veut, en effet, c'est l'expression qu'il avait employée, d'ailleurs, je crois... lors de ses vœux, c'est redonner la parole aux Français, reconsulter les Français. D'ailleurs, il a toujours justifié la dissolution par cette volonté de redemander aux Français ce qu'ils pensaient. Il en a payé le prix. Mais il y a, oui, et c'est une manière de renouer avec des Français qui lui ont marqué leur désintérêt à minima et pour certains, leur colère. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on arrive à 8 ans. De pouvoir d'Emmanuel Macron. Il lui reste 2 ans et ce tic-tac, il l'a dans la tête. Donc, il essaye de trouver des moyens pour que des choses avancent, qu'il ait un bilan avec des cases qui sont cochées et qu'en effet, il termine ces 2 quinquennats, peut-être avec un lien renoué avec les Français, en tout cas pas dans la situation dans laquelle il a été depuis quelques mois, avec vraiment, parfois de la colère contre lui. Donc, il est dans une opération séduction vis-à-vis de ses concitoyens. Il espère se remettre en scène avec cette émission de ce soir et montrer toutes ses capacités, toute son envie, toute sa détermination, toute sa capacité à agir. Est-ce que ça ira plus loin que la communication? On verra ça après.
Ce qui serait...
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Moreau-Chevrollet. On rappelle le sujet du débat de ce soir. Est-ce que le référendum est une bouée de secours alors qu'Emmanuel Macron va s'exprimer dans un peu plus de 30 minutes, débute son émission qui va durer 2h30 sur TF1 ce soir, et émission au cours de laquelle il pourrait annoncer la tenue d'un référendum comme la France n'en a pas connu depuis 20 ans. La dernière fois, c'était en 2005. Mes trois invités, donc Philippe Moreau-Chevrollet, professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil, Guillaume Tussaud, constitutionnaliste, professeur de droit public au sein de l'école de droit de Sciences Po, et Valérie Gasse, chef du service politique de Radio France Internationale. Philippe Moreau-Chevrollet.
Oui, je disais, ce qui pourrait être intéressant, c'est de changer éventuellement la Constitution, mais ça c'est notre constitutionnaliste qui pourra nous le dire, pour admettre par exemple le référendum d'initiative citoyenne, ce qui serait pour le coup très populaire. Je ne vois pas les Français voter contre, par exemple.
Ouais.
Le RIC, ce serait intéressant. C'est ce qui a été demandé par les Gilets jaunes.
Ouais, on n'a pas parlé du RIP non plus, référendum d'initiative partagée, qui n'a jamais vu le jour parce qu'il est très compliqué à faire aboutir. Il faut l'initiative du président de la République. Il faut l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs. La réponse sur le référendum d'initiative citoyenne?
Alors, la révision de la Constitution, elle est extrêmement difficile à réaliser, notamment parce qu'elle passe par un vote conforme de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on imagine mal, en l'état des forces politiques, l'Assemblée nationale et le Sénat faire ce cadeau à Emmanuel Macron. Et puis ensuite, soit une adoption de la révision, normalement, par la voie du référendum lui-même, soit une adoption par la voie du Congrès aux 3/5, comme ça a été le cas pour le dernier amendement en mars. Il y a un an sur...
C'est vrai, mais le référendum d'initiative citoyenne, aller contre quand on est le RN, LFI, le PS, c'est quand même très compliqué. Quoi. C'est une façon... Ce serait compliqué.
Il pourrait, ça se mettrait en contre de la population.
Oui, mais le Sénat mettrait son veto.
Oui, vraisemblablement. C'est possible.
Il n'y a pas de moyen de le surmonter. Alors, l'une des stratégies possibles, ce serait d'utiliser l'article 11 qui, selon la majorité des constitutionnalistes, n'est pas fait pour ça, pour opérer cette révision constitutionnelle introduisant le RIC dans la révision constitutionnelle, dans la Constitution, et ensuite d'en faire usage.
Oui, de faire du Trump un peu, de tordre la Constitution.
C'est ça, et on retombe sur la question de savoir s'il est possible et si le Conseil constitutionnel éventuellement bloquerait une telle initiative de soumettre au peuple français un référendum de l'article 11 qui touche non pas au domaine de la loi tout court, mais au domaine de la loi constitutionnelle. Le général de Gaulle s'y est essayé en 1962, ça a marché. En 1969, ça a raté. Est-ce qu'Emmanuel Macron estime son crédit politique suffisant aujourd'hui pour tenter sa chance de ce point de vue-là? Ça paraît assez improbable.
L'Élysée a laissé entendre qu'il pourrait éventuellement utiliser l'article 11.
C'était quelque chose qui était dans son discours lors de sa campagne en 2017. Ça a complètement disparu en 2022, où c'était par contre assez présent dans la campagne de Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, l'hypothèse peut se représenter. J'imagine qu'on y réfléchit. Ensuite,
c'est quand même majoritairement entre les mains du président de la République et Emmanuel Macron. C'est intéressant qu'on fasse référence au fameux référendum de 1969 qui a vu la sortie du général de Gaulle. Ça fait écho à ce que disait Philippe Moreau-Chauvrelet aussi sur l'enjeu de l'avenir politique de François Bayrou avec la possible tenue d'un référendum. Justement, Philippe Moreau-Chauvrelet, il y a une mode du référendum aujourd'hui. Pas le fait qu'il soit mis en place. On a bien compris que ça n'a pas été le cas depuis 2005 en France. Mais des voix politiques ne cessent de s'élever pour la tenue de référendum. On a eu donc François Bayrou. Alors, peut-être champion de la perspective du référendum, il a évoqué un référendum sur les retraites, il voudrait qu'il y en ait un sur la tenue de scrutin à la proportionnelle pour les législatives. Là, aujourd'hui, il souhaite un référendum sur le budget. Il y a Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui veut un référendum sur l'immigration. L'extrême droite le souhaite également. On a aussi Clément Beaune, le haut commissaire au plan, qui a évoqué une possible consultation sur l'évolution du service national. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça?
Ça veut dire qu'il y a une crise du parlementarisme et de la représentation, donc on cherche à court-circuiter le Parlement, tout simplement. Ouais. Il y a un discrédit du Parlement. Personne en France ne défend le Parlement. C'est absolument hallucinant. Personne. Les propositions, c'est toujours « il faut donner moins d'argent ». Cyril Hanouna, son programme Fantoche, qui était paru chez vos confrères de Valeurs Actuelles, qui est un programme qui n'existe pas, mais quand même, quelqu'un y a réfléchi. L'une des premières mesures, c'est on va diminuer le nombre de parlementaires et leur donner moins d'argent.
Ouais. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la confusion.
Que le Parlement n'est pas utile, en fait. Alors peut-être parce qu'on ne lui a pas donné suffisamment de place.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité et que c'est la cacophonie qui domine, peut-être.
Et aussi parce qu'on veut passer, c'est du populisme pur, on veut passer par le peuple pour passer par-dessus la représentation nationale, voire par-dessus la Constitution. On a quand même des ministres en exercice qui nous expliquent très tranquillement que le recours au peuple, on pourrait s'asseoir sur la Constitution, c'est pas grave. Le peuple doit primer. Ce discours-là, il est nouveau. Il n'y a que Trump qui le tient en dehors de deux ou trois ministres égarés. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on sort de l'état de droit, mais on va le faire au nom du peuple. C'est la perversion du système. On va utiliser les armes de la démocratie contre la démocratie, ce qui a toujours été le programme des populistes de tous les temps.
Mais en même temps, alors le budget, c'est un sujet intéressant. Rien n'oppose, Guillaume Tussaud, la tenue d'un référendum sur le budget.
C'est plus douteux.
Sur la loi budgétaire, c'est pas possible.
Les lois de finances ont quand même dans la Constitution un statut assez particulier.
Ouais. Ensuite, à nouveau,
est-ce que si un président tente sa chance de soumettre le projet de loi de finances au référendum, le Conseil constitutionnel dirait non, désolé, ça ne rentre pas dans l'objet et au titre du contrôle qu'il exerce sur les actes préparatoires au référendum, bloquerait cette initiative? On n'en sait rien.
Ouais.
Donc, on peut prendre le risque ou au contraire se dire que c'est vraiment trop osé.
Mais Valérie Gasse, quelle sortie pour l'exécutif sur le budget? Depuis 2021, il n'y a pas eu de budget adopté. À chaque fois, ça s'est passé à coup de 49-3. 49-3 égale risque de censure aujourd'hui. D'où la perspective d'un référendum.
Alors, ce que propose François Bayrou, c'était pas forcément la loi de finances de l'année prochaine qui soit proposée pour un référendum, mais c'était un plan, une espèce de plan à une échéance plus lointaine de réduction des déficits. En fait, il n'a pas vraiment concrétisé, finalisé cette proposition qu'il a lancée, qui était un petit peu floue, qui n'a pas eu l'air de séduire énormément Emmanuel Macron. On verra ce soir si c'est le cas ou pas. Mais c'est vrai. En tout cas, ça tombe juste parce que les Français se disent oui sur ces questions. Il y a quand même peut-être quelque chose qu'on a envie de dire parce que on leur fait miroiter tous les inconvénients de ces déficits qui se creusent d'année en année, pour lesquels il va falloir faire des sacrifices. Donc c'est vrai que ils auraient peut-être envie de pouvoir donner leur avis sur la manière dont on va leur demander ces sacrifices. C'est un sujet qui est percute que la classe politique, et c'est vrai que c'est tellement difficile de faire passer un budget, encore plus maintenant qu'il n'y a plus du tout de majorité et que ça a été le premier objectif de François Bayrou. Il a réussi à faire passer le précédent. Maintenant, il y a la préparation du suivant et c'est l'école, c'est son principal sommet de l'Himalaya, comme il a voulu résumer les choses. Donc, oui, cette question-là, elle est saillante.
Ouais. Philippe Moreau-Chauvrelet, vous parlez de populisme. C'est intéressant parce qu'effectivement, le référendum est plébiscité par les Français. Il y a eu un sondage qui est qui a été publié dimanche, 83% des Français qui sont pour la tenue d'un référendum. Et pourtant, encore une fois, on l'a dit, il n'y en a pas eu en France depuis 20 ans. Par exemple, en Suisse, il y a très régulièrement des consultations nationales. Est-ce que la France n'a pas de culture référendaire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, la procédure de référendum en France, elle est concentrée sur une personne qui est le président de la République.
Virtuellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas davantage de...
C'est pour ça qu'il n'y en a pas davantage. Mmh. Virtuellement, il est impossible d'en faire un autre. Il y a toujours... En théorie, une possibilité, mais en pratique, cette possibilité n'existe pas. Donc, on est dans un système extraordinairement hypocrite qui consiste à dire il y a toujours la possibilité d'en faire un, sauf que personne n'arrive à en faire ou n'en fait. Ouais. Il faudrait en réalité libéraliser la procédure. Si on voulait ressembler à la Suisse, il faudrait libéraliser la procédure, permettre le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que moi je trouve une très bonne chose. Ouais. D'accord, on aura des horreurs. En Suisse, il y a eu des horreurs, mais il y a aussi eu des votations contre les horreurs. C'est comme ça la démocratie. Un jour, on vote pour un truc, le lendemain, on vote contre. Tant que ça, c'est possible, on est en démocratie. Et là, le système qu'on a actuellement est tellement centralisé que c'est un peu c'est la foudre qui tombe de Jupiter, ce qui est très archaïque, ne correspond pas au fonctionnement actuel des gens qui votent, qui veulent des résultats rapides, instantanés. Voilà. Il y a plein de choses à informer. Ouais. Hein. Il faudrait aussi du vote électronique à distance, etc. On ne veut pas que les gens votent. La réalité, c'est que moins les gens votent, mieux la démocratie française se porte. Sauf qu'à la fin, on abîme et la démocratie et le vote.
Guillaume Tussaud, il y a des verrous qui peuvent sauter, vous qui êtes constitutionnaliste, pour que la perspective de l'organisation d'un référendum ne soit pas quasi uniquement entre les mains du président.
Alors là, pour la réponse technique, c'est qu'il faut modifier la Constitution. Ouais. Mais surtout, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, ce qu'il faudrait, c'est aussi un changement culturel. On vit sur l'héritage d'un mauvais souvenir, en fait. C'est de la pratique napoléonienne des plébiscites et de la pratique peut-être gaullienne aussi du référendum avec tendance plébiscitaire. Donc si un président de la République a la majorité à l'Assemblée nationale, aucun intérêt de s'embêter à faire un référendum. Si au contraire, un président de la République fait face à une majorité d'opposition... Ça veut dire que le peuple le désapprouve et donc il prend le risque d'être désapprouvé à nouveau par voie de référendum. Donc le paradoxe, c'est que moins on pratique le référendum, plus on alourdit le coût pour celui qui tente d'en faire un, de voir le peuple français répondre à la personne plutôt qu'à la question, et donc d'alourdir encore le discrédit de la procédure.
Philippe Moreau-Chevrolet, finalement, pour conclure et pour répondre à notre question, c'est pas une bouée de secours le référendum, dans le sens où, encore une fois, ni Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, ni ses prédécesseurs François Hollande, Nicolas Sarkozy l'ont utilisé, mais c'est la perspective du référendum qui est une bouée de secours. J'ai cité tous ceux qui l'ont évoqué.
Oui, c'est le fait de dire aux gens « on va vous donner la parole », c'est ça la bouée de secours. Mais le fait de donner la parole, c'est un danger, un risque pour le président. Donc il est entre deux feux, une envie de communiquer pour dire aux gens « je vais vous donner la parole » et tout le monde a envie qu'on tienne compte de sa décision. Si vous demandez à quelqu'un « est-ce que tu préfères décider de ton avenir ou est-ce que tu veux que je décide pour toi ?» en général, à 83%, c'est même étonnant qu'il n'y en ait que 83%. Ouais. Il va vous dire « oui, c'est assez logique ». Par contre, le faire vraiment, c'est là où on ouvre la boîte de Pandore. Le référendum à choix multiple, le référendum QCM, on ne l'a pas encore testé. Au moins, il y aurait un intérêt sur la forme. On verrait ce que ça donne.
Eh ben, on va voir ça ce soir. On va suivre tout ça, évidemment, dans les journaux de RFI, avec vos analyses, et évidemment Valérie Gasse également. Merci beaucoup à vous trois. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil. Et Guillaume Tussaud, constitutionnaliste, professeur de droit public au sein de l'école de droit de Sciences Po. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Claude Battista à la réalisation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition de ce mardi. On va jeter un coup d'œil au programme d'Afrique Soir. Sylvie Berruet est avec nous. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Quel programme ce soir,
Sylvie? Une chape de plomb s'est abattue sur le Mali. La junte a dissous tous les partis politiques. Hein, c'est une décision que redoutait depuis plusieurs semaines maintenant l'opposition. Et la chaîne TV5 Monde est de nouveau suspendue. Elle est accusée d'impartialité à la suite d'un reportage sur une manifestation de l'opposition. Nous ferons également le point sur la situation à Goma et à Sake dans l'est de la République démocratique du Congo, où selon nos informations, les rebelles de l'AFC M23 mènent depuis samedi des opérations dites de bouclage. L'ouverture du 78e Festival de Cannes, Standing Ovation, il y a quelques instants pour Robert De Niro, qui a reçu la Palme d'Or d'honneur. Sachez que le réalisateur congolais Dieudo Amadi, originaire de Kisangani, figure parmi les membres du jury. Puis enfin, ce sera la sélection musicale toujours très attendue de DJ Facemaker, alias Hervé Mandina.
On sera à l'écoute, à tout à l'heure.